ma grand-mère les appelait les bohémiens. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Roxana. Roxana, c'est une gadji. Elle est roumaine. Elle vit en France. Et elle travaille comme bénévole auprès de Médecins du Monde et en particulier avec les Roms. Elle est aussi médiatrice. Mais elle va vous expliquer tout ça. Eh bien, je suis en face de Roxana. Eh bien, Roxana, je vais te laisser te présenter, si tu veux bien.
Je m'appelle Roxana Albou, je suis née en Roumanie et je vis en France depuis bientôt 8 ans. Voilà, je suis venue pour des raisons personnelles et finalement j'ai réussi à me faire une vie professionnelle, un réseau et toute ma vie est là maintenant.
Et tu as appris le français en Roumanie ?
J'ai fait le lycée en langue française et j'ai toujours travaillé en français dès le début.
Et alors, qu'est-ce que tu fais maintenant ?
Actuellement, je suis indépendante, donc je suis libérale, profession libérale, et je suis professeure de français langue étrangère pour des stagiaires en entreprise et traductrice-interprète. Et depuis bientôt 6 ans, bénévole chez Médecins du Monde à Lyon.
Donc voilà, tu m'as dit tout à l'heure en antenne que tu avais, je vais dire, un diplôme de médiatrice.
Oui, en fait, il y a un peu plus d'un an, j'ai appris par une collègue que le Conseil de l'Europe organisait une formation pour former des médiateurs interculturels pour des populations roms et gens du voyage. Donc j'ai envoyé ma candidature, j'ai été retenue et j'ai fait cette formation qui s'est déroulée en 2 sessions avec 6 mois d'écart pour pouvoir mettre en pratique la théorie, bien sûr. Et à la fin, on a été diplômés par le Conseil de l'Europe pour cette formation en tant que médiateur interculturel pour Roms et gens du voyage.
Et alors ça consiste en quoi exactement
d'être médiateur ? Être médiateur, en fait, c'est très difficile à donner une définition précise. Moi, quand je dis médiateur, tout de suite, le mot qui me vient en tête, c'est neutralité. C'est vraiment la base de la médiation, c'est-à-dire faire en sorte que deux groupes qui n'arrivent plus à communiquer, ou deux personnes qui n'arrivent plus à communiquer, les aider à renouer le contact et le dialogue. C'est notre rôle, mais tout en restant neutre. Voilà. C'est un petit peu comme un service support, si vous voulez, mais un peu plus avec le côté humain.
En fait, c'est partir sans a priori.
Exactement, c'est partir sans a priori et faire en sorte, donc écouter chaque partie, écouter leur doléance, leur souffre-douleur, voir où ça coince, pourquoi le dialogue ne fonctionne pas. Et ensuite faire avec eux une analyse, les mettre face à face pour qu'ensemble, ils trouvent des solutions. Mais ce n'est pas à nous d'apporter la solution. Voilà. Et nous, on est là pour créer cet espace de neutralité dont ils ont besoin pour réapprendre à communiquer et à trouver eux-mêmes qu'est-ce qui a bloqué le dialogue et la solution.
Mais alors, quels peuvent être ces différents interlocuteurs ? C'est par exemple des Roms et des institutionnels ou quoi ?
Dans mon cas, effectivement, en tant que bénévole chez Médecins du Monde, donc au début j'ai commencé comme interprète sur le terrain, mais en réalité on s'est rendu compte qu'on faisait plus que de la traduction. On était bien au-delà de ça en fait. et qu'on était là pour expliquer d'un côté aux populations quelles sont les règles du jeu en France et pourquoi les choses ne se passent pas comme en Roumanie. Et de l'autre côté, expliquer à nos propres collègues de Médecins du Monde pourquoi ces gens-là, bien sûr en parlant avec chaque parti, se comportent de cette façon-là qui les surprend. Ou pas. Voilà. Et donc petit à petit, on s'est rendu compte qu'avec le dialogue et avec notre présence, voilà, les choses se mettaient en place. Maintenant, le médiateur, le rôle, ce serait effectivement de renouer le contact entre les administrations, les services publics, les hôpitaux, etc., et les populations. Voilà. Parce qu'à chaque fois, donc, bien sûr, on vient d'un pays, les règles du jeu ne sont pas du tout les mêmes. Du coup, on vient avec nos habitudes, avec notre comportement. Forcément, ça va surprendre les gens qui nous accueillent. Et souvent, bah, chacun, ça va se braquer. Parce que chacun a une autre idée en tête. Et s'il se braque, il n'y a plus de dialogue. Forcément. Et donc, s'ils n'arrivent pas à parler, on n'avance pas. Donc, c'est un petit peu ça, en fait. Moi, j'aime bien expliquer plus simplement, sans des mots académiques, sans aller. Parce qu'en réalité, c'est ça, la médiation.
C'est aussi simple que ça, j'allais dire.
Ça paraît simple, enfin, non, mais c'est bien loin d'être simple. Oui, bien sûr, il y a d'autres formes de médiation. C'est pas, on peut faire aussi un petit peu de la prévention pour éviter d'arriver. Donc déjà, pour mettre en contact, pour que les gens se connaissent. Vous savez, on a toujours peur de l'étranger, du voisin étranger qui vient à côté de nous. Et donc si on discute, si on ne va pas le voir, si on ne parle pas avec lui... Bah, on reste enfermé chez nous et le dialogue ne passe pas et les choses vont mal se passer à la fin. Donc, il y a des projets qu'on peut mettre en place en amont pour éviter les blocages de plus tard, en fait. Et les incompréhensions qui vont venir juste parce qu'il n'y a pas de dialogue.
Et alors, toi, tu es donc roumaine, mais est-ce que tu es issue des gens du voyage?
Déjà, les gens du voyage, c'est une réalité française. Comment j'ai découvert en allant à cette formation? Je connaissais, j'avais entendu parler des gens du voyage, mais la réalité qui était cachée par cette dénomination administrative m'était complètement inconnue et j'étais très très choquée en apprenant que ben, en fait c'était des Français qui étaient les étrangers dans leur propre pays en fait. C'était comme ça, c'était simple mais douloureux. Et donc en Roumanie en fait on parle des tziganes. Effectivement maintenant on a le terme de Roms et plus récemment maintenant on parle de Roms migrants. Qui est une autre communauté, bien sûr. Non, moi je ne suis pas issue de cette communauté-là.
Et comment t'as découvert, justement?
Je sais que votre émission s'appelle « Ma grand-mère, elle les appelait les bohémiens ». Eh bien, je peux vous dire que c'est grâce à ma grand-mère que j'ai eu le premier contact avec ces gens, qui étaient des gens qui me fascinaient, toute petite. Moi, je suis élevée par ma grand-mère, ma mère étant très active, donc on était plutôt chez la grand-mère. Et donc, on avait toujours, en automne, principalement, et au printemps, des gens qui venaient s'installer quelque part à la sortie du village. Et elle allait toujours les voir, parce qu'ils faisaient des cuirs en bois, parce qu'ils réparaient les grosses marmites en fonte, parce que, voilà... Et moi, j'allais toujours l'accompagner et je voyais ses enfants qui étaient avec des grands jupes, des enfants qui n'allaient pas à l'école, mais qui sont devenus vite mes copains, mes copines. Par la suite, j'ai connu aussi qui était à mon école quand j'ai été scolarisée. Et c'était quelque chose de, comment vous dire, c'était la vie normale. Il y avait un cycle tout à fait normal. Que ces gens-là viennent. D'ailleurs, ma grand-mère disait, je n'achète pas des cuillères en bois chez les Roumains parce qu'ils ne savent pas faire des cuillères en bois. Parce qu'elle reconnaissait. Donc. Et c'était nos voisins, en quelque sorte, pour des courtes périodes. Mais, je vous dis, c'était pendant les communistes. Je n'ai pas le souvenir que les choses se passent mal. C'était mal. Non, du tout. Par contre, en allant faire des études plus tard à la ville, je me suis rendu compte que c'était pas du tout, ça se passait pas du tout dans mon village en fait, où on avait les caravanes un petit peu à l'été qui criaient pour la ferraille, pour ramasser la ferraille. C'était un équilibre, vous voyez, ou pour nous ramener, parce que nous on était en plaine, donc on n'avait que les céréales, ils nous ramenaient les fruits de la montagne, de la région montagneuse. Et ils criaient ce qu'ils vendaient. Et on sortait, on achetait. Ben là, c'était un équilibre. D'ailleurs, ma mère, entre parenthèses, aujourd'hui, dit « Mais c'est dommage qu'ils ne viennent plus parce qu'on ne sait pas quoi faire de notre ferraille. » Vous voyez, on est arrivé là aujourd'hui. Et quand j'arrive à faire donc, mes études à la ville, je me rends compte que non, ça ne se passait pas comme ça. Qu'il y avait de la discrimination. Que ça passait mal. Qu'ils étaient refusés à l'école. Que voilà, j'ai appris qu'on nous apprenait des bêtises à l'école parce que bon, à l'école, l'histoire a été tellement modifiée en Roumanie sur pas mal de sujets que je ne serais jamais étonnée de découvrir autre chose. Et donc, voilà. C'est comme ça que j'ai rencontré ces gens-là. Moi, j'ai eu un premier contact, un contact d'amitié, un contact des gens. Des gens comme tout le monde, sauf qu'ils étaient un petit peu différents parce qu'eux, ils voyageaient. Et moi, je souffrais parce que je ne voyageais pas. J'ai commencé à voyager bien plus tard, mais autrement qu'eux. Voilà. Et quand je suis arrivée en France, ça m'a paru tout à fait naturel quand j'ai vu qu'ils cherchaient des bénévoles, pas d'y aller. Même si y a pas mal de gens qui me disent « Mais tu ne te fais pas payer pour ce travail ?» Même eux, ils me disent « Mais tu n'es pas payé parce que tu passes des heures ici. » Mais non, je donne mon temps, mais je trouve normal. Et ils disent « C'est quand même drôle que nous Roumains viennent nous aider ici en France. » J'ai eu quand même ce genre de commentaires.
Et tu as des contacts, toi, avec les administrations françaises?
Moi, personnellement, je ne travaille pas. En fait, comme je fais partie d'une structure Médecins du Monde, donc je l'ai dit, en tant que bénévole et à mon niveau, je ne contacte pas les administrations. D'accord. Donc, il y en a du personnel qui est salarié chez Médecins du Monde, qui est désigné, qui les contacte. Nous, on remonte l'information du terrain en réunion et ensuite, on attend les réponses. Nous, on est les petits pieds du terrain, en fait.
Et ça se passe comment, alors, sur les terrains?
Sur les terrains, bah, ça se passe de quel point de vue?
Ben, je ne sais pas.
Pour nous, moi, quand j'arrive, bah, on est avec des gens qui sont comme notre famille. Donc, ils nous attendent. Ils savent qu'on allait venir tel jour de la semaine. Donc, ils nous attendent pour les consultations, pour des papiers, pour savoir où il en est un dossier, etc., etc., pour nous exprimer leurs inquiétudes. Parce que, bien sûr, il y a les expulsions, il y a des problèmes, il y a tout un tas de problèmes. Il y a les désordures, il y a les toilettes, il y a les problèmes d'eau et d'électricité. Ça, c'est un petit peu laissé vraiment à la fin. L'eau et l'électricité, c'est vraiment parmi les derniers soucis. Mais c'est surtout les poubelles, avoir des poubelles et des toilettes et la scolarisation des enfants. Donc, ils y tiennent énormément.
Et alors, justement, pour la scolarisation des enfants, quel est le vrai blocage? Parce que normalement, les écoles sont justement, on dit toujours qu'on veut intégrer les gens. Pour intégrer les gens, le meilleur moyen, c'est la scolarisation.
C'est un droit de l'enfant, c'est un droit fondamental de l'enfant, en fait. Ben, c'est ce qui coince, en fait. Ça part un peu de plus loin, en réalité. C'est que déjà, ces personnes-là sont considérées des personnes en illégalité. Et donc, normalement, au bout de 3 mois, ils ont droit à une domiciliation qui est refusée systématiquement par les mairies pour des raisons et des prétextes, une liste interminable. Il y a toujours une bonne raison pour ne pas donner une domiciliation qui, d'ailleurs, a été parfois limitée à 3 mois. Voilà. Sans la domiciliation, bien sûr, les parents ne peuvent pas avoir l'ouverture de droit et tout. Du coup, les enfants non plus ne sont pas pris à l'école. C'est parce qu'il n'y a plus de place, parce que vous ne venez pas régulièrement, parce qu'on sait très bien que vous venez juste pour les allocations ou pour la cantine. Mais c'est tout est dit, jamais écrit. Donc c'est très difficile en fait.
En fait, on trouve des prétextes pour ne pas appliquer la loi.
Exactement, mais jamais par écrit. Jamais par écrit, et les personnes, bah, d'un côté, ils ne parlent pas toujours bien la langue, ils ne comprennent pas toujours. Nous, on ne peut pas toujours les accompagner. On a quand même des accompagnateurs, on fait appel à d'autres associations qui s'occupent principalement de l'éducation scolaire, en fait, des enfants, parce que nous, on est plutôt dans la médiation sanitaire, la santé, qui les accompagnent, mais à chaque fois, il faut que quelqu'un, en français, avec un interprète, aille pour que ça débloque. Il faut à chaque fois, et ça se débloque pas, et ça recommence. Et souvent, le prétexte, c'est qu'il n'y a plus de place. C'est vraiment la réponse, la classique, on va dire. We'll be right back.
Et alors, une question, je veux dire, un peu plus générale, mais du fait que tu es roumaine, tu vas pouvoir me répondre beaucoup plus. Non, mais parce que tu es beaucoup plus au courant que les gens qui ne sont pas d'origine roumaine. Quelle est la raison essentielle pourquoi les tziganes roumains, débarquent en France?
Mais il n'y a pas que les tziganes qui débarquent en France. Quand vous êtes en période de crise, vous savez, en fait, j'ai fait quelques reportages avec des journalistes et on leur a donné la parole. On a dit, c'est le moment de parler. Dites ce que vous... Pourquoi vous êtes là, tout ce que vous pensez de la France, de la Roumanie. Et la réponse qui est revenue, qui était récurrente, c'était, vous savez, dans un pays riche, les poubelles sont riches. Et ça, je pense que ça traduit très, très, très bien la situation actuelle. En Roumanie, l'économie de la Roumanie est déjà en état catastrophique. Il y a, au niveau général de la population roumaine, le chômage est grandissant, les gens gagnent de moins en moins. Vous avez peut-être entendu parler des salaires qui ont été coupés, enfin à 25% pour les retraites aussi diminuées, etc., etc. Et bien quand vous êtes dans une situation pareille, vous ne jetez plus les choses. Une tomate qui a juste une tache de pourriture, oui, vous ne la jetez plus, vous la nettoyez. Dans les magasins, dans les boulangeries, ils ne jettent plus le pain. Déjà, il y a plutôt du pain industriel là-bas. Non. Vous faites attention, vous réparez votre frigo, tant bien que mal, avec ce que vous trouvez. Vous ne le jetez plus. Donc du coup, ces gens-là qui sont encore plus précaires, qui vivaient justement de la déchetterie, en fait, en cherchant et en récupérant de la ferraille, etc., ben, ils ne peuvent plus rien récupérer. Faire les poubelles, ben, il n'y a plus rien dans les poubelles. Les gens ne jettent, font attention, ne jettent plus. Les gens ne vont plus donner un sou. Et déjà, il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus d'emploi. Et après, il faut savoir qu'une grosse partie de la population vit dans des... Je ne vais pas m'avancer, peut-être oui, des ghettos. Ils sont quand même dans des villes. Il y a quand même des villes... C'est important de la Roumanie, les maires ils ont décidé de les pousser dans des quartiers voilà, à l'extrémité, de les marginaliser. Voilà. Donc forcément, donc, et après, il faut savoir que le système médical en Roumanie est très très dur. On paye quasi tout. Quand vous allez vous faire opérer, peu importe que vous êtes rom ou roumain, parce que chez nous on a plusieurs ethnies minoritaires, hongrois ou autre chose, bah vous payez votre pansement, vous payez votre piqûre, vous payez vos médicaments, vous payez tout. On vous donne la liste. Donc les gens, bah oui, bien sûr, s'ils viennent, s'ils quittent leur pays, s'ils quittent leur maison, il y a une raison qui est... très forte, qui cache des douleurs. Hein. Faut pas savoir. Moi, je leur pose la question, ils disent non. Il y a certains qui disent, bah non, maintenant c'est la France, notre pays, ça fait 10 ans. Même s'ils sont toujours, ils n'ont pas les papiers. Mais il y a pas mal d'entre eux qui disent, moi, j'espère pouvoir rentrer un jour. Moi, j'ai toute ma vie, j'ai ma famille là-bas. J'espère pouvoir rentrer un jour. Bye.
Oui, non, mais c'est bien de le dire, parce que on entend tellement de choses, des choses fausses, etc., que, eh bien voilà, j'ai quelqu'un sous la main qui peut parler.
Je tiens pas la vérité, en fait.
Mais tu connais aussi la réalité roumaine.
Oui.
Ce qui change quand même quelque chose.
Mais je vous assure, il y a beaucoup de Roumains aussi qui, moi, sur les terrains, j'interviens, j'ai rencontré également des Roumains, des Hongrois, de Roumanie. Et ils vivent comme des frères. Hein. Ils sont ensemble. Parce que, voilà, ils arrivent là dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Et là, ils se font, il faut le dire aussi, ils se font embaucher au noir, hein, sous prétexte qu'ils n'ont pas de papier. Moi, je connais une personne... qui travaillait 12 heures par jour. Cette personne a fini par ne plus pouvoir utiliser ses mains. Donc maintenant, il est malade, il ne peut plus travailler, mais il travaille au noir en France. exploité depuis quelques bonnes années en France par des entreprises, des petites entreprises françaises, des patrons français. Il faut le dire aussi.
Bien sûr.
Voilà. Mais parce que voilà, ils profitent de la situation. Ils gagnaient quand même un petit peu, mais bien en dessous le SMIC hein, pour son travail. Et bah, comme c'était un travail manuel, bah, il s'est déformé les doigts et il ne peut pas avoir accès aux soins. Il est dans des conditions pénibles sur des terrains. Il ne peut plus rentrer chez lui.
Et est-ce que, ben, je suis parti sur la Roumanie là, est-ce qu'il y a, comme en Hongrie par exemple, une forme de racisme importante vis-à-vis des Roms et des Tigres?
Ben, c'est-à-dire qu'au niveau politique, comment vous expliquer? Déjà le système roumain, de par son histoire, la Roumanie a reconnu les minorités nationales. Et plus la minorité est importante, plus elle a des droits. Notamment à avoir des représentants au Parlement, dans la Chambre des députés, même à aller dans les villes où ils sont majoritaires, à avoir des panneaux en langage double, en fait, dans leur langue et en roumain. Donc, les Roms, je sais qu'il y a le parti des Roms, enfin, ils ont des représentants, il y a des projets qui se forment, etc. Après, le racisme se manifeste dans la vie quotidienne, en fait, dans le refus à l'école, pour certains, parce qu'ils sont sales, ça arrive. Je sais qu'il y a quand même pas mal de projets en Roumanie qui ont été faits. Il faut savoir que par ce programme, ce que ça n'a pas été dit sur le programme de médiation, il n'y a pas que la France en fait. Il y a beaucoup de pays européens qui ont adhéré au programme et en Roumanie, ils ont formé dans les, si je, peut-être je m'avance, mais dans les 200 médiateurs. Et ils sont en quelque sorte un peu plus en avant qu'à la France sur la question. Donc il y a des projets qui sont en cours, mais malgré cela, les populations restent toujours en milieu rural, donc éloignée des hôpitaux parce qu'on n'a pas d'hôpital, on n'est pas du tout comme en France en fait, on n'a même pas un petit dispensaire pour chaque commune hein, parfois. Donc éloignée des soins, éloignée de l'école, parce qu'il faut savoir que pas tous les villages possèdent une école. Hein. Par manque de personnel, pas assez d'enfants, etc. Donc ils sont regroupés, il n'y a pas forcément un bus scolaire qui fait la tournée. Donc, et après, donc, peut-être que si au niveau législatif, il y a des lois qui disent qu'ils ont des droits, ça reste sur du papier. Ça se manifeste surtout dans la vie quotidienne, sur le terrain, en pratique en fait. C'est ce que, à ma connaissance, j'ai une sœur qui est professeure en milieu rural, qui a beaucoup de Roms à l'école. Elle me dit, je suis toujours choquée de voir comment ça se passe au niveau de la direction de l'école par rapport à ses enfants. Pourtant, on sait que les lois disent ceci et cela. Mais nous, on n'a pas intérêt de dire quoi que ce soit parce qu'on se fait virer. Il faut savoir qu'en Roumanie, maintenant, c'est le maire dans les villages qui décide pour les écoles. Et c'est plus tout le ministère de l'enseignement, c'est un peu décentralisé, ils ont un peu changé. Donc le maire a un petit peu de pouvoir et si, bah, il fait un petit peu sa politique. Je pense que ça ressemble un peu à la France, d'un certain côté. Ça me dit quelque chose, tout en disant ça, je me dis ça me dit quelque chose.
Eh bien, le temps passe. Je vais te poser une dernière question, c'est est-ce que tu voudrais répondre à une question que j'ai oublié de te poser, quelque chose qui...
Tant qu'elle n'est pas trop indiscrète.
Non, justement, moi je ne pose pas de questions, mais quelque chose que tu aurais vraiment envie de dire. Quoi.
Ah, si j'ai quelque chose dont j'ai vraiment envie de dire.
Voilà.
Par rapport à ce sujet.
Ben oui, évidemment.
Bien sûr. Bah écoutez, déjà, je peux dire que nous sommes là au festival de Douarnenez et que j'ai une très, très, très grande surprise, dans le sens positif, de retrouver beaucoup de représentants des Roms, et peut-être pas énormément, mais beaucoup plus que d'habitude, et des gens du voyage ici qui étaient impliqués. Et je trouve que c'est un bon début. En tant que médiateur, je me dis, bah voilà, on commence, il y a un début, on commence à travailler ensemble. Parce que c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je dis, le médiateur ne va pas venir, ah bah oui, mais quel est le problème, dites-moi, et moi j'ai la solution et je le fais. Ouais. Non, c'est leur travail, à ceux qui n'arrivent plus à parler, de trouver des solutions et à travailler ensemble. Voilà, je reste sur ma neutralité. Mais je trouve que voilà, nous sommes importants quand même.
Donc, eh bien voilà. Écoute, Roxana, je te dis un grand merci. Et
merci
puis on
à
aura
toi.
Peut-être l'occasion de se rencontrer sur un autre festival sur le sujet.
Certainement. Ben, j'espère qu'il y en aura d'autres déjà.
Allez, la tchoudron.
La tchoudron. Quack, quack. Salve, Google, be warm, boy, boy. Yeah!
mi-a plecat omul la piață mai băi, să-și vândă iapa de rasă mai băi. Că băia, băi, băi, să-mi dați mie și suta, băi, asta e averea ta, măi, măi. Ca să e averea ta, măi, măi. Și să-ți faci treaba cu ea, măi, măi.
Eh bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vais donc vous souhaiter, comme d'habitude, la chodrome. Et c'est une nouvelle habitude, il n'y aura pas de texte sur le générique de fin. La chaudrome.